France Culture.
Et pour parler de ces deux films aujourd'hui, j'accueille Philippe Azoury, journaliste, critique et auteur. Bonjour.
Bonjour Marie.
Raphaël Pirère, critique de cinéma pour la revue AOC. Bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux.
Hasta darnos las pruebas de que hay otra manera de llegar a las islas de las especerías.
De Fieri, el Espíritu Santo.
Las tuas águas serenas son vastas. Y es más cruel.
Nos descubrimos una nueva pasaje. Una nueva ruta, una... Vamos a falar com Sua Alteza. Mais dinheiro e mais poder para ele. Mais território para Portugal. Mais conversos cristãos.
Hereto! Hoje abraçareis o reino de Deus. E sereis chamados cristianos.
On commence donc avec Magellan de Lav Diaz, un des réalisateurs majeurs du nouveau cinéma philippin. N'attendez pas un biopic du navigateur. Ici, Lav Diaz se concentre sur les 15 dernières années de la vie de Magellan, celle où il entreprend son voyage vers l'archipel malais en ouvrant une nouvelle route vers les Indes. Une mission montrée comme une œuvre de colonisation, ce qu'elle est, d'évangélisation au prix d'une violence inouïe. Le comédien mexicain Gael Garcia Bernal prête ses traits à l'homme dont les actions changèrent à jamais le pays du réalisateur Lav Diaz. On commence avec un avis en quelques mots, Raphaël Pirère.
Moi, j'ai l'impression que c'est un film qui est un peu empêché. En fait, il existe une version de 9 heures de ce film. Et j'ai l'impression qu'on a un peu une espèce de bande-annonce d'enjeux qui intéresse Lav Diaz, mais qu'il nous manque un peu des jointures pour comprendre vraiment le projet de ce qu'il a envie de raconter.
Philippe Azoury.
Oh, moi, à l'inverse, je pense que la durée, effectivement, c'est 2h30, 2h45, Raphaël, je ne sais plus. 2h30, je crois. Ça peut passer. Enfin, la blague des cinéphiles, c'est-à-dire, c'est un court-métrage pour Lav Diaz qui peut prendre facilement 12 heures, 14 heures ou 16 heures pour un récit. C'est vrai que le film est censé durer 9 heures. En fait, il y a un troisième point de vue qui est le point de vue de Béatrice, de l'épouse de Magellan, restée en Espagne, qui donnera lieu à un autre film de 9 heures, a priori, qui devrait arriver un peu plus tard dans l'année, ou enfin, je sais pas, après Cannes ou un peu avant Cannes. Mais moi, ce film-là de 2h30, il me fascine, il m'hypnotise. Je vais faire peut-être une référence, mais pour moi, il est au cinéma ce que Cortez the Killer de Neil Young est à la musique, et c'est pas un mince compliment.
Raphaël Pirère.
En fait, Lav Diaz, c'est un cinéaste effectivement qui est connu pour la durée exponentielle de ses films. Là, donc, c'est plutôt un film court pour lui. C'est pas tellement ça qui me gêne. C'est pas tellement cette question de durée qui me manque chez lui. Mais il est connu aussi pour refaire l'histoire de son pays, les Philippines, notamment dans Norte en 2013. Il revenait sur la dictature de Marcos, et donc là, il réécrit du point de vue philippin, du point de vue malais, l'arrivée des Occidentaux sur cette terre. Et moi, en fait, il y a quelque chose qui me gêne profondément dans le film pendant assez longtemps. C'est un film en plusieurs parties, mais au moins dans les deux tiers du film, c'est que le film reproduit, en fait, sur les autochtones le regard de la population occidentale qui est en train de s'installer. Donc, les autochtones sont filmés de très loin. Ils n'ont pas de personnalité, ils n'ont pas de psychologie, on n'est pas proche d'eux. Et donc, moi, je ne comprends pas, pendant une longue partie du film, le film me regagne à la fin, mais j'en parlerai après, mais pendant longtemps, je ne comprends pas ce que le film veut me faire et pourquoi le film va dans ce personnage de Magellan, qui est vraiment le personnage occidental par excellence, qui est mu par une volonté capitaliste, mais aussi une volonté très personnelle de se mettre en avant. Il y a un côté un peu rockstar chez ce personnage-là, qui était l'ami de tous les astronomes, de tous les poètes de l'époque, et qui est quelqu'un qui a beaucoup de d'ampleur dans son personnage. Et donc, moi, j'arrive pas à saisir ce que le film m'emmène voir chez ce personnage, chez l'histoire avec Béatrice, effectivement, qui est ébauchée, mais très qui est le fait d'un autre scénario. Voilà, pendant longtemps, moi, je suis perdue par cette question-là, et le film me regagne vraiment dans sa dernière partie.
Mais... Alors, on va revenir à la dernière partie, mais Philippe Azoury, vous, c'est l'hypnose qui vous a emporté.
Mais pas seulement. Enfin, j'écoute avec beaucoup d'intérêt ce que ce que dit Raphaël. J'ai pas l'impression qu'il y ait qu'un seul point de vue. C'est vrai que c'est beaucoup raconté comme ça, c'est beaucoup amené comme ça dans certains papiers qu'on peut lire depuis quelques jours ou depuis ce matin. Comme quoi, ce serait une première chez Lav Diaz qui a toujours raconté l'histoire des Philippines. Enfin, c'est l'armature même de son cinéma, de tous ses scénarios. Cette fois-ci, l'idée qu'il passerait d'un autre point de vue. En fait, il met en balance deux points de vue. Et c'est là où ça semble, ça résiste un peu, j'entends chez Raphaël, qui dit oui, mais ils ont pas de personnalité, il n'y a pas de psychologie. C'est vrai que ce qui est troublant là, c'est que les Philippins qui sont montrés sont ceux de 1521, c'est-à-dire l'année où Magellan s'est heurté justement aux Philippines, n'a jamais cessé de façon de se heurter à l'idée de rejoindre la Malaisie, et quand il a cru créer la route des épices en passant par les Philippines, c'est-à-dire par l'extrême pointe de l'Amérique du Sud, il s'est à nouveau confronté à un mur total d'incompréhension, c'est-à-dire d'abord incompréhension des religions. Alors d'ailleurs, ça c'est, moi j'aimerais revoir le film parce que c'est quelque chose que j'ai moins perçu à la première vision, mais on sent que l'Apu-Lapu, qui a toujours été présenté dans l'histoire comme le roi de la petite île de Matkan et qui serait celui qui a tué Magellan, en fait, pour Lav Diaz, l'Apu-Lapu, il dit que dans ses recherches, l'Apu-Lapu c'est un totem. L'Apu-Lapu n'était pas un roi, n'était pas incarné. C'est une
divinité. Plus du côté de la légende.
C'est une divinité. Comme ça. Voilà. Et que Antonio Pigafetta, qui était l'un des navigateurs italiens qui est rescapé de cette expédition, n'a rien compris. Il a raconté l'affrontement héroïque entre deux héros, un côté Magellan. Effectivement, pas très, très sympathique dans le film, il faut bien le dire. Oui, un peu rockstar, ouais. Alors que c'est un personnage compliqué, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup raté Magellan. Mais on sent que Lav Diaz ne l'aime pas, ne le porte pas en son cœur. Mais surtout, c'est que Magellan qui est montré, qui a été raconté par l'historiographie officielle, c'est quelqu'un qui se bat, donc c'est un héros contre un autre héros. Alors qu'en fait, là, c'est quelqu'un qui se heurte à une culture à des religions animistes, à un rapport à la nature, à un rapport à l'air, à un rapport à l'eau, à un rapport aux éléments, où tout est divin finalement, qui lui a échappé complètement. Et c'est ces deux rapports qui sont mis en confrontation dans le film et que je trouve beau. Moi, je trouve que c'est là où le film est hypnotisant, c'est que d'un côté on a les enjeux de pouvoir qui sont ceux de Magellan. Magellan est portugais, arrivé en Espagne depuis 3-4 ans, s'y marier, se faire une place à la cour du roi Charles Quint. C'est pour lui des enjeux qui sont essentiels parce que c'est quelqu'un qui a raté au Portugal, qui est presque exclu du Portugal au moment où il rejoint l'Espagne. L'Espagne, c'est une porte de sortie pour lui, il mise beaucoup. Et ses enjeux de pouvoir et sa fascination, effectivement, vous le disiez Marie, enfin ça pour la question d'évangéliser à peu près tout ce qui touche, qui est le moteur de ces expéditions, fait qu'il rate totalement les Philippines et qu'il en meurt, quoi.
Raphaël Pirard, oui. Quand est-ce que le film vous rattrape alors?
Ce que Magellan rate au Portugal aussi, c'est qu'il est très en compétition, en concurrence avec le roi oui. Emmanuel Ier, qui est très jaloux de lui. À mon sens, là où le film se retourne, c'est que il y a deux expéditions qui sont racontées, celle à Malacca en Malaisie, et puis celle aux Philippines. Et quand on arrive aux Philippines, on est vraiment dans le dernier quart du film, et on retrouve les mêmes plans, des plans vraiment identiques à ceux qui avaient été monté au début du film. Et donc cette idée-là, en fait, on arrive aux Philippines avec l'idée que la colonisation, c'est un espèce de mouvement répétitif et cyclique, et que c'est pas une attaque, mais c'est plein d'attaques, et que en fait les forces européennes, les forces occidentales, elles seront toujours plus importantes et elles reviendront toujours. Et ce qui est très saisissant aussi, c'est qu'il y a des scènes de bateaux dans le moment où on arrive dans cet archipel, et on se rend compte que ce sont de toutes petites expéditions. Ils sont une vingtaine d'hommes sur le bateau, et alors que on a eu l'habitude des récits à la Ridley Scott où c'était des armées entières, c'était des centaines de navigateurs sur deux, et là ils sont sur un gros bateau, mais bon, c'est un tout petit équipage et la plupart est mort avant d'arriver. Bon. En tout cas, ce moment-là où on retrouve exactement les mêmes plans que dans la première partie, qui sont des plans magnifiques. Lav Diaz cadre lui-même et c'est vraiment un cadreur. Il a comme chef opérateur Arthur Thor, qui est le chef opérateur d'Albert Serra.
Et, qui est aussi le producteur du film.
Oui, Albert Serra a produit le film, oui. On est vraiment dans la réflexion réflexion sur ce que c'était que la peinture de la Renaissance et donc comment cadrer des images de massacre. Et donc ce moment-là, ça nous fait passer dans une idée de répétition cyclique, sauf que la violence, la cruauté va se retourner. Et dans le film d'horreur, il y a un sous-genre qui s'appelle le rape and revenge. Ben là, on serait un peu dans la colonisation et vengeance. Quoi. Ouais. On a eu la première colonisation où les Occidentaux gagnent, et dans la dernière partie du film, on a la vengeance cruelle, sauvage, qui nous fait plaisir d'une certaine manière quand même.
Un tout dernier mot,
oui.
Vraiment court.
D'abord, oui. Enfin, je pense que le film touche à un regard aujourd'hui décolonial qui est important, et c'est vraiment là-dessus un anti-biopic héroïque. Et s'il y avait un tout dernier mot, je voudrais juste dédier cette chronique à quelqu'un qui s'appelle José Luis Cienfuegos, qui dirigeait le festival de Valladolid où le film de La Viaz a eu le Grand Prix. Il nous a quitté il y a un mois brutalement, quatre ou cinq jours après le festival où le film de La Viaz avait le prix. Et voilà. Enfin, c'est quelqu'un qui a compté aussi pour Albert Serra, pour Elena López Rielle, pour toute une génération du cinéma espagnol, et qui portait La Viaz dans son cœur, qui l'avait défendu ailleurs. Et voilà, quelqu'un qu'on connaît mal en France, mais ça me tenait à cœur en ce 31 décembre de lui dédier cette chronique.
Merci Philippe Azoury. Magellan, écrit et réalisé par La Viaz.